Donc aujourd'hui, nous allons entrevoir ce qu'est le mystère du mal, le péché et la souffrance. Je ne prétends pas que je vais tout dire, parce que c'est un sujet très, très difficile, très complexe, et puis aussi parce qu'il faut plus d'une vie pour le comprendre, et puis nous n'en finirons jamais de le comprendre. D'ailleurs, l'Église nous dit, dans son enseignement, dans le catéchisme de l'Église catholique, « Aucune réponse rapide ne saurait suffire face au scandale du mal. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. Ce n'est pas un point précis, c'est la totalité de la foi chrétienne qui va nous permettre d'aborder la question du mal et d'y faire face. » L'Église aussi, forte de l'expérience humaine, on dit souvent l'Église experte en humanité, avec elle nous pouvons reconnaître que personne n'échappe à l'expérience de la souffrance. Personne dans sa vie ne peut dire qu'il ne va pas souffrir d'une manière ou d'une autre, soit physiquement, soit moralement, soit psychologiquement, soit socialement, soit spirituellement. Et personne ne peut dire qu'il ne va pas mourir. Et tout le monde reconnaît que tous ces mots, M-A-U-X, nous font souffrir, y compris même la mort. Voilà. Et donc, c'est le propre de la condition humaine. Et en plus, chacun d'entre nous va souffrir d'une manière différente. On n'est pas égaux dans la souffrance, dans le mal. On va voir aussi qu'on pêche d'une manière différente, chacun. Et puis aussi, il y en a qui vont plus souffrir que d'autres. Dans leur vie, ça peut arriver. On pourrait dire une sorte de distribution de la souffrance n'est pas faite de la même manière pour chacun. Mais c'est ainsi. Pour aborder la question de la souffrance, on peut remonter en amont en disant « Est-ce que Dieu est sadique ? Est-ce que Dieu est quelqu'un qui veut faire souffrir ? Est-ce que Dieu aime le mal ?» Ou alors, est-ce que finalement, il y a une entité du bien et il y a un combat contre une entité du mal ? Il y aurait une origine au bien, un Dieu bon, et il y aurait quelque chose depuis toujours, une force maléfique, une sorte de Dieu du mal ? Eh bien non. La foi chrétienne nous révèle qu'il n'y a pas de dualité, il n'y a pas un Dieu du bon et un Dieu du mal. Et c'est très à la mode, ça. Vous savez, souvent, la représentation orientale, un côté blanc, un côté noir, et des petits points noirs dans le côté blanc, un petit point blanc dans le côté noir, et on dit, ben voilà, il faut un équilibre, il faut une harmonie, il y a toujours un peu de mal dans le bien, il y a toujours un peu de bien dans le mal, il faut qu'il y ait un tout, il faut que ça s'équilibre. Mais pas du tout, il ne faut pas que ça s'équilibre. On n'est pas en train de dire, mais il faut bien que j'ai un peu de mal. Non, Dieu veut le bien. Dieu ne veut que le bien. Il n'existe qu'un seul Dieu qui est bon et qui ne veut que le bien. Et pour lui, le mal n'est qu'un mal. Et le mal, en réalité, n'a pas d'existence éternelle. Le mal, c'est une absence de bien. Ça n'a pas de consistance. Le mal, c'est une absence de bien. En fait, là où notre Dieu n'est pas vainqueur, n'est pas présent, c'est son absence et c'est le mal. Mais en aucun cas, le mal a une consistance. C'est parce que souvent nous voyons beaucoup de mal et de souffrance autour de nous, de guerre, d'injustice, que nous disons finalement, ça doit avoir une consistance, on est tenté de croire ça. Et même c'est la grande objection à la foi. Si Dieu est bon, pourquoi le mal ? Voilà. Mais non, Dieu veut le bien. Et le bien, il est éternel, c'est la source de Dieu. Et simplement, quand le mal est là, c'est que la source est obscurcie, où la source ne se donne pas. Et c'est l'absence de bien, c'est le péché. Il faut remonter, l'homme est pécheur. L'homme fait expérience en lui, dans le plus profond de son être, comme dit saint Paul, « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » Nous faisons le mal, il y a du mal en nous, et on voudrait guérir de ça, mais c'est difficile. C'est normal, nous sommes pécheurs. Et donc, ça m'amène à parler du péché et de ce qu'est le péché originel. Au départ, tel que Dieu a voulu créer l'homme, l'homme n'était pas fait pour expérimenter le mal. Il n'était pas fait pour faire souffrir ou même pour mourir. Dieu, en créant Adam et Ève, a créé l'homme et la femme dans une pleine communion avec lui, une communion de cœur, d'intelligence et de corps, qui maintenait Adam et Ève dans la grâce, dans l'amour de Dieu, ce qui fait qu'ils connaissaient vraiment Dieu. Ils avaient une très grande confiance en lui, ce qui fait qu'ils avaient même la maîtrise de tout leur être. La partie spirituelle prédominait sur la partie intellectuelle. La partie intellectuelle prédominait sur les passions et le corporel. Et Dieu même qui avait créé Adam et Ève périssables, c'est-à-dire pas comme des êtres éternels, les maintenait dans sa grâce, nous enseigne l'Église, pour qu'ils ne meurent pas. C'est-à-dire que nous, effectivement, au départ, à la création de l'homme et de la femme, Dieu n'avait pas prévu que l'homme et la femme meurent physiquement. Mais parce que le péché est entré dans le monde, l'homme a été livré à sa nature périssable, et sans la grâce, il s'est retrouvé à mourir. La mort est entrée physique dans le monde parce qu'il y a eu le péché, comme la destruction de l'harmonie dans l'homme, sur le spirituel, sur l'intellectuel, l'intellectuel sur le physique et passionnel. La désorganisation de l'homme a entraîné sa chute et le péché. Et donc, cette conséquence-là, nous la devons à ce que nous appelons le péché originel, le péché des origines, qui est effectivement, dans l'histoire de l'humanité, un acte posé. Ce n'est pas un symbole, c'est un acte posé par nos parents qui a entraîné effectivement la coupure avec Dieu. Quand nous voyons dans la Genèse, au chapitre 2 et au chapitre 3, nous voyons que Adam et Ève, en fait, vont convoiter dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans l'intimité avec Dieu, le paradis terrestre où l'homme a été créé dans toute sa nature, corps et âme. Il a été créé pour la communion avec Dieu, il vivait une harmonie avec Dieu. Et à un moment donné, ils vont convoiter le fruit d'un arbre pour, quelque part, être comme Dieu, pouvoir poser les mêmes actes que Dieu, c'est-à-dire vouloir connaître par eux-mêmes la science du bien et du mal et le définir par eux-mêmes, être le créateur à la place du créateur. Et donc en faisant ça, Adam et Ève vont quelque part se couper de l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer rapidement? Ils découvrent leur nudité. Or au départ ils sont nus et ils n'ont pas de problème avec ça, parce qu'il y a quelque part une harmonie en eux-mêmes. Il y a une primauté du spirituel sur l'intellectuel et de l'intellectuel sur le physique, et il y a une unité, il n'y a pas de péché. Mais dans leur expérience de la nudité, après avoir convoité et mangé du fruit de l'arbre, qu'est-ce qui se passe? Adam et Ève ont honte et se cachent. Ils sentent, ils sont livrés à leur finitude. Ils sont livrés à leur fragilité. Et Dieu parcourt le jardin d'Éden en disant « Où es-tu? Où êtes-vous ? » Et ils se cachent de peur de rencontrer Dieu, parce qu'ils ont peur de Dieu à ce moment-là. Leur connaissance de Dieu n'est plus celle qu'ils avaient au départ. Ils ne sont plus dans un lien de confiance, ça a été abîmé. Et nous voyons, nous avons cette trace-là dans notre vie. Combien d'êtres humains ont du mal à faire confiance en Dieu? Parce que leur connexion est abîmée dès le départ. Dieu n'est plus évident. Et Dieu, on met des années des fois à comprendre qu'il n'est pas un juge, qu'il n'est pas un sadique, qu'il n'est pas distant de notre vie, et même dans la souffrance, parce que Dieu, la vision de Dieu a été abîmée. Et ça, nous le tenons depuis les origines. Dieu, en voyant cela, va faire cette constatation qui n'est pas un jugement, mais une constatation en réalité, c'est que parce qu'ils ont pris du fruit de l'arbre, qu'ils ont voulu être comme Dieu, définir le bien, le mal à la place de Dieu et se couper dans la désobéissance de la vie divine, l'homme va convoiter. L'homme va exercer la domination. Adam va exercer la domination sur Ève. Ève va convoiter. Il y aura une non-maîtrise de leur passion. Et à la génération suivante, il y a même le meurtre. Caïn et Abel tuent. Donc on voit, il y a une rupture dans la capacité de l'homme à connaître vraiment son Dieu, la capacité de l'homme à chercher le bien, à discerner avec son intelligence, la capacité de l'homme à se maîtriser ou la capacité de l'homme à rentrer en relation saine avec les autres et dans la communion. Il y a une destruction avec Dieu, dans son être et avec les autres, qui est la conséquence du péché. Et nous sommes marqués par cela. Nous n'avons pas fait le péché des origines, qu'ont fait Adam et Ève, mais nous avons la trace du péché originel. Et c'est pour ça que nous sommes, depuis qu'on est né, un pécheur. Et c'est pour ça qu'on baptise les enfants. Parce que les enfants, même s'ils n'ont pas fait de péché, ils sont quand même fabriqués pécheurs. C'est quoi être fabriqué pécheur? Imaginez, je reprends l'exemple qu'a donné, je crois, un autre prêtre de notre paroisse, qui est un moule de sculpture, un moule de plâtre. Vous faites un moule de plâtre, ça se reproduit, ça ne pose pas de problème. Vous faites une cassure sur ce moule, vous le reproduisez, il y a une cassure. Le phénomène du péché originel, c'est une cassure qui est reproduite. En fait, c'est quoi? C'est une carence. C'est une carence à faire le bien, à être maître de soi-même, à connaître Dieu et à avoir une relation juste et charitable avec nos frères. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Ça, c'est la trace du péché des origines. Et cette trace-là va entraîner notre inclination à faire des péchés. L'être humain va naturellement pencher vers le péché. Il va essayer d'y résister avec des efforts de l'ascèse, mais naturellement, il y penche. Il va essayer de connaître Dieu par ses capacités naturelles, mais naturellement, c'est obscurci et c'est difficile. Il va essayer d'avoir une vie droite conformément à la juste raison, mais ça tient mal. Et il y a des incohérences, des paradoxes. Il va essayer d'être bon avec les autres, mais il y a plein d'a priori, des guerres, du terrorisme, de l'injustice sociale, des adultères. Et on pourrait passer plein de choses. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? L'homme n'arrive pas à s'en sortir par lui-même parce qu'il est pécheur. Et une très grande partie du mal s'explique ainsi. Le mal, c'est la conséquence de l'homme pécheur. Voilà, il faut le dire, et ça serait faux de dire, si le mal existe, c'est la faute à Dieu. Dieu est mauvais, donc, ou alors Dieu, je ne crois pas en Dieu. En réalité, Dieu est bon et a créé libre l'homme. Nous ne sommes pas des pantins. C'est-à-dire, quand Dieu nous crée, il ne nous force pas à nous aimer. Sinon, il nous crée comme des objets. Mais il nous a créés comme des êtres capables d'aimer, et il nous a créés par amour. Or, l'amour impose que l'autre répondre librement à l'amour. Vous ne pouvez pas imposer à votre mari ou à votre épouse de vous aimer. Vous l'aimez et vous attendez gratuitement de l'amour en retour. Dieu a créé Adam et Ève et les hommes par amour et il attend librement d'être aimé en retour. Or aussi la question du mal touche à la question de la liberté de l'homme. L'homme est créé libre d'aimer Dieu ou pas, mais si il peut librement le refuser. Il peut librement commettre des péchés. Et donc, en fait, la question du mal touche l'homme pécheur qui, du coup, exerce mal sa liberté et fait multiplier les conséquences du mal. Et nous voudrions souvent avoir une réponse simpliste en disant « Si Dieu est bon, il devrait empêcher le mal. » En gros, si Dieu est bon, il devrait faire de nous des pantins, nous contrôler pour pas qu'il y ait le mal. Mais Dieu nous laisse libres. Dieu nous fait toujours des propositions pour nous convertir et éviter le mal. Fais le bien, évite ceci. Comme dira l'Église dans le Concile Vatican II, Dieu parle dans la conscience de l'homme en lui disant « Fais ceci, évite cela ». Donc Dieu nous rejoint là où nous en sommes, mais jamais ne fait à notre place ni nous impose. Nous ne sommes pas des pantins. Donc nous voyons l'objection à la question du mal, des fois, est trop simpliste. Elle est beaucoup trop simpliste. Ça serait finalement pire parce qu'on serait des pantins. Si Dieu voulait tout faire à notre place, et nous ne serions pas heureux. Le vrai bonheur et la solution du mal, c'est la conversion. Pour une partie, il faut se combattre contre le péché. Et vous voyez, l'homme a un défaut de fabrication dans sa relation avec Dieu, dans sa relation intellectuelle, dans sa capacité affective, dans sa capacité relationnelle. Et c'est fort parce qu'on peut être quelqu'un de très intelligent et avoir l'intelligence pécheresse, obscurcie, et ne pas pouvoir trouver Dieu, et trouver toutes les bonnes raisons pour ne pas trouver ce qui normalement est évident. On peut être très intelligent et tourner son intelligence pour le mal. On peut chercher à faire le bien et se rendre compte qu'on n'arrive pas à faire le bien. Et puis aussi, on va voir, on peut avoir confiance en Dieu et à un moment donné, se révolter en permanence contre Dieu en disant « Mais pourquoi tu permets ça dans ma vie ? Et finalement, est-ce que tu es si bon ?» Parce que la connexion avec Dieu n'est pas continue, on a du mal, parce qu'on est pécheur et qu'on ne comprend pas le plan de Dieu. Une grande partie du mal tient du péché et se fait par notre liberté. Nous pouvons concéder ou pas. Et plus encore, enfin, c'est la conséquence de ça, celui qui prend l'habitude de faire le mal et comme devient vicieux, c'est-à-dire de péché en péché, il se modèle, il façonne son moule. Et au lieu de faire de la vertu, il devient vicieux, il fait des vices. Celui qui lutte contre le mal et s'habitue à lutter contre le mal, exerce la vertu, il devient vertueux. Donc nous sommes enclins à faire le mal, mais si nous résistons, nous allons vers la vertu, et si nous ne résistons pas, nous allons vers le vice, de petit péché en grand péché, et il est plus difficile de se désencroter d'un vice. Ça demande du temps et la grâce de Dieu. Vous voyez ? D'où pourquoi le combat spirituel et la vigilance de la conversion. Je n'ai pas dit que dans le récit de la Genèse, mais c'est vrai aussi, il y a quelqu'un qui a tenté Adam et Ève. C'est le serpent, c'est le démon, connu aussi comme le menteur. Et il est vrai que dans le mystère du mal, dans le mystère du péché, sans nier la responsabilité de l'homme, il ne faut pas se dédouaner, il y a vraiment chaque péché commis est vraiment notre responsabilité. Mais dans la responsabilité de l'homme, il y a aussi ce mystère de la tentation, de la permission que Dieu a accordée aux anges maléfiques, les démons, et particulièrement Satan, de nous tenter en nous trompant, en accélérant nos convoitises, nos inclinations à faire le mal, chacun selon son caractère et ses habitudes vicieuses, pour nous amener quelque part à nous détourner de l'obéissance à Dieu, de la confiance et du chemin. Et le démon commence dans la Genèse en trompant Adam et Ève. Il leur fait croire que ce qu'a dit Dieu est faux. Il vous a dit de ne pas toucher au bien au mal de l'arbre de la vie, parce que sinon, vous mourrez. Mais non ! Mais sinon, il a peur que vous soyez comme des dieux. Donc en fait, il les trompe. Dès le départ, il les trompe, nous dit le serpent, nous dit l'Écriture, il les trompe. Et justement, le démon fausse l'intelligence, fausse l'enseignement de Dieu. Et du coup, Adam et Ève, librement pêchent, mais ont été tentés et trompés. Et donc, nous voyons que dans le mystère du mal et du péché, il y a aussi quelque chose qui nous dépasse, qu'est l'action maléfique, qu'est l'action de la tentation. Et c'est réel. Et c'est réel. C'est réel dans le monde, c'est réel dans nos vies. Et dans le carême, nous vivons le combat spirituel. Et donc, le combat contre le mal, ça va être un combat de conversion, ça va être un combat contre le démon, profondément, mais pas que, un combat pour exercer juste notre liberté, de manière juste notre liberté, et un combat aussi pour comprendre le sens de la souffrance. Soit pour en être guéri, soit pour comprendre le sens de la souffrance. Parce que nous voyons que Abel va souffrir tellement qu'il va mourir. Nous voyons que, dans la Genèse, que Adam va suer par son front pour travailler le sol avant que c'était plus facile, et que Ève enfantera dans la douleur. Nous voyons qu'il y aura des dominations sur l'un sur l'autre. Et que nous voyons que dans toute l'histoire du peuple d'Israël, le peuple fait souffrir et souffre. La souffrance est entrée dans le monde et la conséquence ultime de la souffrance, c'est la mort physique. Et Dieu ne va pas enlever cette souffrance-là, mais il va vouloir la transformer, lui donner un nouveau sens. Une grande partie de la souffrance, enfin je ne peux pas la quantifier, mais une partie de la souffrance que nous vivons est notre faute, est la conséquence de notre péché. Si j'avais su, je n'aurais pas fait ça. Si je savais, j'aurais pris plutôt cette voie. Ou alors, par exemple, le péché a toujours un goût d'amertume. On est tenté comme un beau fruit, on y goûte, et puis après on se dit « Ah non, je regrette. En fait, ça me fait plus de mal. » Donc, il y a une part de la souffrance qui vient de nous, qui est la conséquence de notre péché. Et quelque part, c'est bon d'avoir des remords. C'est bon, comme dirait le pape François, d'avoir de la culpabilité. Parce que ça nous permet de chercher le chemin de la conversion. Ça nous permet de changer. Celui qui fait le mal sans remords et sans culpabilité, c'est pire encore. Parce que son curseur de la conscience, il est complètement abîmé. Celui qui se sait pécheur et qui veut se convertir et qui souffre de son péché est déjà sur le chemin de la guérison. Parce qu'il reconnaît son état, il peut ainsi avoir le médicament. Celui qui pêche sans jamais savoir son état, il ne peut même pas être soigné, parce qu'il ne sait même pas qu'il est malade. Alors, ce qui est important là-dessus, c'est de comprendre aussi qu'il y a une part de souffrance qui n'est pas liée à notre péché, forcément, mais que Dieu a permis. Pourquoi je suis né handicapé? Pourquoi un tel meurt dès le bas âge? Pourquoi il y en a qui, des innocents qui meurent? Et ça aussi, dès la Bible, dès l'Ancien Testament, cette réalité est marquée. Vous lirez le livre de Job. Job est un juste, c'est-à-dire quelqu'un qui croit en Dieu, qui vit véritablement le commandement de Dieu, qui est donc un chemin de vie, hein, choisit la vie et non la mort. Le commandement de Dieu, on le voit, ce n'est pas une règle qui nous dicte comme une espèce d'obligation tyrannique, mais ça a pour but de nous faire vivre. Quand Dieu dit une parole dans la Genèse, c'est pour nous faire vivre. Quand Dieu dit les commandements, c'est pour nous faire vivre, parce que c'est le chemin de la vie. Et Job vit ce chemin de la vie, il est prospère, et à un moment donné, il perd tout. La maladie arrive, sa prospérité économique tombe. Alors il continue dans la prière. Il continue dans la prière. Il a confiance en Dieu. Et ses amis, marqués par une conception de Dieu qui va se purifier dans l'Ancien Testament, disent « Mais non, si t'arrives ça, c'est ta faute. Voilà, tu as dû faire quelque chose avant pour arriver à ça. C'est Dieu est juste, mais voilà. » Si tu fais le bien, il t'arrive des choses bonnes. Si tu fais le bien, il ne peut pas t'arriver des choses mal. Il t'arrive des choses mal, c'est ta faute. Ne le nie pas, allez Job, reconnais-le. Et Job dira, non, non, ce n'est pas ma faute. C'est profondément pas ma faute. Et continue à prier. Mais la tentation arrivera de manière très grande. Et à un moment, Job en a marre. Et Job va crier à Dieu en disant, je suis coupable de rien. Pourquoi j'ai ça? J'aurais mieux fait ne pas exister. Maudit soit le saint qui m'a enfanté. Et Job va aller vraiment dans une prière de gémissement, de colère, d'incompréhension vis-à-vis de Dieu. Et la fin du livre de Job nous dit finalement, alors pendant, il y a toute une discussion avec ses amis qui essayent sans arrêt de revenir, de renchérir en disant « mais non, tu te trompes, etc. » Et Job tient le coup. Et Job fait tout ce qu'il peut, crie à Dieu, demande les réponses et tout, il n'en a pas forcément. Et à la fin, Dieu lui dit, Job, devant ses amis, taisez-vous, Job a dit vrai. Il n'est pas coupable. Et Dieu restaure Job. Donc l'Écriture nous montre quelque part, restaure Job dans sa condition. Voilà. Et Dieu dit quelque part qu'il est possible que l'innocent fasse l'expérience de la souffrance. Et que l'innocent n'est pas la réponse à la souffrance de pourquoi il vit, même s'il est juste. Donc il y a partie de la souffrance que nous vivons qui n'est pas liée aussi au péché. Mais qui semble que Dieu la permette. Je vous ai dit, Dieu n'est pas maléfique. Dieu n'est pas un Dieu du mal. Alors pourquoi le mal? Dieu peut enlever le mal, puisqu'il est tout-puissant. Il semble que Dieu n'enlève pas tout le mal, puisqu'il permet aux démons d'agir. Il semble que Dieu n'enlève pas le mal, puisqu'il permet à l'innocent de faire l'expérience du mal, dans son corps, dans son psychique, dans son âme parfois, dans sa relation avec les autres. Alors pourquoi ce mal? Cette réponse va être donnée en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on voit le scandale que le juste est touché par le mal. Et cette réponse va être donnée en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, nous allons voir que Dieu veut sauver l'homme de son mal, de son péché. Veut restaurer ce qui a été abîmé dans le moule, c'est la trace du péché originel. Mais Dieu va aussi donner un sens au juste qui souffre. Va donner un nouveau sens en Jésus-Christ à la souffrance tout court, qu'elle soit provoquée par notre péché ou subie, que nous n'avions pas choisi et nous ne sommes innocents. Pourquoi? Parce que Jésus, en s'incarnant, n'a pas enlevé la souffrance lui non plus. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. C'est très intéressant. Dieu qui a tout créé, quand il vient voir l'homme, il n'enlève pas la souffrance. Est-ce que c'est un Dieu sadique? Non, parce que nous voyons que c'est un Dieu de compassion. Il dit lui-même, réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. On voit que dans Lazare, au chapitre 11 de Saint Jean, Dieu est touché en Jésus-Christ, il est ému et il pleure de la mort de Lazare. Hein? Et Dieu veut la vie. On a entendu tout à l'heure, en Jean 3, 16, 17, Dieu n'est pas venu juger, mais sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu aime. Donc Dieu veut la vie. Mais Dieu n'enlève pas la souffrance. Parce que Dieu va donner un nouveau sens à la souffrance. Tout d'abord, je reviens, Jésus va, son combat, ça va être d'enlever le péché, de pardonner les péchés. Jésus va pardonner les péchés, va chasser le démon, va chasser l'auteur des tentations. Il exorcise, il combat le démon. Voilà. Là, c'est l'action propre de Dieu qui nous dépasse. Et après, il invite le pécheur à se reconnaître pécheur. Convertissez-vous. Faites la vérité. Il invite, il nous éclaire dans notre intelligence abîmée. C'est la lumière de la foi. Il nous enseigne sur qui est le vrai Dieu parce que notre intelligence pécheresse est abîmée dans son lien avec Dieu. Il nous pardonne le péché qui est une coupure de la connexion avec Dieu. L'Église nous enseigne, il peut y avoir des coupures terribles qui nous empêchent de recevoir la grâce. On les appelle le péché mortel. Et Dieu nous restaure par son pardon pour qu'on soit à nouveau dans la grâce. Dieu nous éclaire, pardonne, nous réconforte et Dieu va prendre la souffrance des souffrants. Jésus va agoniser, Jésus va vivre sa passion, Jésus va porter la croix. Et cette souffrance, elle est, nous enseigne l'Église, rédemptrice. C'est-à-dire qu'en fait, elle est un moyen de grandir dans la charité. Elle est un moyen de se conformer au plan de Dieu. C'est mystérieux et c'est vrai. Jésus a voulu montrer à travers la souffrance qu'elle pouvait être un acte d'amour. On ne souffre pas pour souffrir, on souffre parce qu'on souffre, mais on aime dans sa souffrance. On apprend à se confier à Dieu dans sa souffrance, on apprend à se laisser faire dans sa souffrance parce qu'on sent son impuissance. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et cette souffrance transforme le cœur, purifie la personne et lui permet d'aimer encore plus. Père, pardonne-leur. Jésus aimait toujours, il n'a pas eu besoin d'être purifié. Mais Jésus a pris sur lui pour montrer le chemin. Celui qui me suivra trouvera sa vie, celui qui ne me suivra pas, qui ne prendra pas sa croix, perdra sa vie. Quelque part, l'expérience de la souffrance, qui est comme une expérience de croix, est une expérience de transformation pour celui qui vit en Christ. Je nous rappelle, comme le carême est un chemin de rénovation spirituelle, de vœux du baptême, que nous sommes plongés, pas que simplement dans le ressuscité, mais plongés dans la mort de Jésus. C'est ce que veut dire le baptême, mort et résurrection. Donc nous sommes plongés dans le mystère de la croix de Jésus et dans sa mort. Et donc, quelque part en nous, il y a la mort de Jésus, il y a Jésus qui souffre, qui va vivre en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est aussi le Christ qui souffre en moi. Et donc la souffrance que j'ai à vivre, quelle qu'elle soit, j'ai à la vivre unie à Jésus comme un chemin de rédemption pour moi, de transformation d'amour pour moi et pour les autres. Mère Teresa disait que son apostolat, pour une grande partie, elle le devait à la puissance de la prière des malades, qui ne pouvaient rien faire d'autre qu'offrir leur souffrance. Mais cette offrande avait un pouvoir spirituel et aidait les sœurs missionnaires de la charité à servir, à rayonner. Nous voyons de grands saints qui ont eu de grandes croix et c'est dans la croix qu'a été la fécondité. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne produit pas de fruits. Donc la souffrance pour nous est un cheminement. Il ne faut pas chercher la souffrance pour la souffrance. Il ne faut pas se fabriquer des croix pour se fabriquer des croix. Mais il faut accueillir ce qui nous est donné comme un chemin d'accroissement d'amour, un chemin d'accroissement de confiance et en fait de configuration à Jésus qui souffre. Et si nous disons « Dieu, ma vie est dans tes mains » et nous disons « Ok, quand ça va ». Mais est-ce qu'on le dit quand ça ne va pas? Est-ce qu'on croit qu'une seconde de notre vie n'est pas dans les mains de Jésus? Alors si une seconde de notre vie est une seconde douloureuse, elle est dans les mains de Jésus en mode douloureux. Nous vivons les mystères de Jésus joyeux, glorieux, nous allons les vivre et mystérieusement nous les vivons, mais nous vivons aussi les mystères douloureux de Jésus. Et ça fait partie de notre vie. Et chacun d'entre nous n'a peut-être pas le même poids de douleur et les mêmes approches, mais ça fait partie de notre vie unie au Christ. Et nous ne pouvons pas la rejeter. Il ne s'agit pas d'être doloriste, il s'agit d'être vrai, unifié. Voilà. Et donc ce cheminement, quelque part, nous fait grandir. Je disais aussi qu'il y a l'expérience de notre péché. Nous voyons que le péché nous fait souffrir. Et donc, nous souffrirons toujours de notre péché jusqu'au ciel. Et le saint est celui qui reconnaît le plus son péché. Parce que, effectivement, plus je m'approche de la lumière, plus je me vois dans mes tâches. Plus j'ai conscience de Dieu, puis j'ai conscience de mon péché. Mais en même temps, Dieu ne révèle notre péché que dans la mesure où il nous sous-tend par sa grâce. S'il nous montrait notre péché sans son amour, on mourrait. Donc il ne le montre que progressivement. Donc il y a une prise de conscience de notre péché, et les grands saints souffraient plus de leur péché que d'autres choses. C'est très intéressant. Vous voyez, le vrai mal profond, il est spirituel. Il est spirituel. Voyez. Je vais vous donner un exemple que j'ai connu. C'est un séminariste qui se préparait à être prêtre, qui était quelqu'un vraiment qui rayonnait dans sa simplicité, sa manière d'être. Et il était atteint d'une maladie. Et en fait, il n'a pas pu être séminariste, il est mort avant. Voilà, il était un aîné dans la formation, puis il est mort avant. Mais il avait petit à petit, dans son chemin de souffrance, offert sa vie et l'avait remise entre les mains de Dieu. Il a eu cette parole avant de mourir, quelque temps, il en a eu plusieurs. Il a dit une parole, « Je suis dans les mains de Jésus et de Marie, et qu'est-ce qu'on y est bien ?» Expérience de l'abandon, de la remise de soi, de la confiance. Il y a un cheminement vers la connexion avec Dieu total, comme Adam et Ève, vous voyez, on retrouve quelque chose des origines. Et puis, il a dit aussi cette parole forte, à la manière de Job, c'est une parole de Job, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le Seigneur. » Ah, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie confiance que son chemin tel qu'il le vivait, Dieu le permettait. Et l'Écriture nous enseigne en Romains 8, 28, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Il faut croire par-dessus tout, c'est la vertu d'espérance, que ce que je vis me fait avancer vers Dieu et a un sens. Et c'est un sens mystérieux, vous voyez la question du mal, ce n'est pas un sens en pleine lumière qui nous est donné, c'est obscur. C'est pour ça que l'Église dit « Aucune réponse rapide ne saurait suffire ». C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. Parce qu'on approche le mystère de la souffrance du mal de manière à tâtons, dans l'humilité, il faut accepter de tomber. Et puis on découvre dans le temps le sens de cela. Il y en a qui ont un cancer, Dieu permet qu'ils aient un cancer. Ils ne le forcent pas, mais il le permet, ils auraient pu guérir, ils le permettent. Et à contre-coup, ils se disent en fait, ça a été un chemin de conversion pour moi. Ça m'a permis de redécouvrir Dieu, de faire la paix avec mes amis, etc. Ben, Dieu a permis cela pour faire grandir l'amour. Et c'est exactement un peu, vous pouvez comprendre cette phrase, quand des disciples vont voir des aveugles à un moment donné, et ils disent, mais qui a péché ? Cet homme a péché ? Oh non, alors c'est ses parents qui ont péché, etc. Parce qu'on pensait dans une logique de rétribution, t'as fait ça, donc t'as péché. Ou alors c'est tes parents qui ont péché pour toi, etc. Et Jésus dit, non, non, c'est pas vrai. Donc il casse la rétribution. Dieu ne reporte pas les conséquences. Par contre, il dit, c'est pour que soit manifestée la gloire de Dieu. C'est peut-être parce qu'il va y avoir une guérison directe, parce que Dieu veut ça, et nous devons prier pour les guérisons. Moi, j'aimerais bien que sur notre paroisse, le Seigneur guérisse pour qu'il y ait des miracles. Ça existe, alors on peut demander. Mais en même temps, la gloire de Dieu peut se manifester autrement. C'est-à-dire, effectivement, lui va être un chemin d'humilité, un chemin autour de cette personne aveugle. Ben, va y avoir, par exemple, beaucoup plus d'attention, va y avoir de la charité, va y avoir une écoute différente, des préjugés vont tomber. Et la gloire de Dieu va se manifester de manière plus humble, mais réelle, dans un cheminement de foi, de charité, etc. Et voyez, et Dieu dit ça. Donc il y a un cheminement. Et je nous rappelle que pour saint Jean, la gloire de Dieu se manifeste dans la croix du Christ. C'est quand même assez fou. La gloire de Dieu se manifeste dans la croix du Christ. C'est-à-dire que dans l'être souffrant par excellence, il y a la gloire de Dieu. Je voudrais que nous regardions maintenant un peu plus spirituellement la croix du Christ. La prochaine fois, nous verrons pourquoi Jésus a été crucifié. Mais nous pouvons déjà nous arrêter sur la croix du Christ. Pilate aura une parole prophétique sans le savoir. Il dira « Voici l'homme ». Au moment du jugement, il va montrer Jésus flagellé et dira « Voici l'homme ». Cette parole, elle est très prophétique. Parce qu'effectivement, Jésus est le vrai homme. Il est Dieu fait homme et il nous montre comment il faut être dans notre humanité. Quelque part, nous sommes qu'en devenir, nous. Nous sommes des pécheurs qui, avec la grâce de Dieu, vont petit à petit moins marcher dans le péché et quelque part devenir de plus en plus nous-mêmes, devient ce que tu es, devenir des vrais hommes et des vraies femmes, selon Dieu. Ok, voici l'homme. Mais aussi voici l'homme défiguré. Quand nous voyons à la croix ou à la flagellation, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un miroir de notre condition humaine. Nous voyons celui qui a pris notre péché, qui a pris nos fautes, qui a été blessé par nos fautes et notre souffrance, qu'elles soient volontaires ou involontaires, il a tout pris, il a tout encaissé. Et donc nous avons exactement le vrai miroir. Quelque part, si nous voulons vraiment nous connaître et savoir notre condition, il faut regarder la croix. Quelqu'un qui regarde la croix, il voit comment est la nature humaine. La nature humaine est blessée dans tout son être. La nature humaine, elle est crucifiée quelque part. Et Jésus veut la ressusciter. Jésus a assumé la mort. La nature humaine qui va jusqu'à la corruption et qui meurt. Jésus a assumé la mort et même dans la mort, il en a changé le sens. Jésus a remis sa vie comme un cheminement au Père. Père entre tes mains, un cheminement de confiance et de recréation. Et Jésus ressuscité a vaincu la dernière conséquence du péché. Voyez, et un jour, nous ressuscités, le péché n'aura plus d'impact sur nous. Même la dernière conséquence qui est la mort physique disparaîtra. Vous voyez, le Christ a voulu passer par la mort comme un chemin, par la souffrance, comme un chemin de compassion. Il connaît ce que nous vivons. Il n'est pas indifférent. Comme un chemin de guérison, de transformation, d'accroissement de charité. Donc Dieu y a, par une alchimie qui est proprement l'alchimie de Dieu, Dieu a donné un nouveau sens à la souffrance qui nous éclaire. Mais il reste, toujours est-il, qu'il y a une part d'obscurité très grande dans nos vies, et même de pourquoi telle personne est née comme ça, pourquoi telle injustice. C'est le mystère de Dieu. Mais nous devons tenir que Dieu est le maître de l'histoire et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que Dieu, bien plus intelligent que nous, voit que chaque chose peut servir en son temps, à son terme, à sa fin, au-delà que ce que nous comprenons. Et donc je voudrais dire quelques petites attitudes pratiques pour vivre la souffrance. J'ai aucune prétention de savoir tout parce que j'avoue que je ne suis pas un grand souffrant. Et qu'il est facile de dire cela, autre chose est de le vivre. D'accord ? Voilà. Mais il est bon peut-être de l'aborder déjà dans la foi. La première chose, c'est que peut-être quand il nous arrive quelque chose, on peut se demander pourquoi. Mais le sens ne nous est pas toujours donné. La question plutôt, c'est de se dire comment je vais le vivre ? Parce qu'on peut chercher du pourquoi à l'infini et Dieu ne nous donnera pas la raison. Il semble qu'il y a un grand silence. Et donc en fait, nous essayons le pourquoi de savoir le terme de ça, alors que Dieu nous dit, je ne te dis pas le terme. Le terme, c'est la sainteté. Effectivement, on sait le but de ça. Mais on ne sait pas exactement pourquoi on a ça dans notre vie. Ce que Dieu nous demande de vivre, c'est le comment tu vis ça au jour le jour. Comment tu fais le petit pas, et la manière dont tu fais le petit pas va conduire ton chemin là-dedans en vue d'un bien. Et donc, le Saint-Père qui avait adresser un message aux malades, Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, le 15 août 1983, avait dit cela, « Je voudrais laisser à vos mémoires et en vos cœurs trois petites lumières qui me semblent précieuses. » Tout d'abord, prendre conscience de sa souffrance. « Quelle que soit votre souffrance physique ou morale, nous dit le Saint-Père, personnelle ou familiale, apostolique ou ecclésiale, il importe que vous en preniez lucidement conscience, sans la minimiser, ou sans la majorer. » Voilà. On ne peut pas la nier quand elle existe, puis il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. C'est le risque aussi des fois, on s'arrête qu'à ça. Sans la minimiser, sans la majorer. Et avec tous les remous qu'elle engendre dans votre sensibilité humaine, échec, inutilité de votre vie, etc. La prendre conscience. Deuxième chose, nous dit le Saint-Père, avancer dans l'acceptation. Avancer dans l'acceptation. Ensuite, il est indispensable d'avancer sur la voie de l'acceptation. Oui, accepter qu'il en soit ainsi. Non par résignation plus ou moins aveugle, mais parce que la foi nous assure que le Seigneur peut et veut tirer le bien du mal. Combien d'entre vous pourraient témoigner que l'épreuve acceptée dans la foi a fait renaître en vous la sérénité, l'espérance, l'amour de la vie comme don de Dieu ? Voilà. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas mon chemin, mais le tien. Mais ce chemin est un chemin de vie, quel qu'il soit. Et même s'il conduit à la mort. Ce chemin est un chemin de vie, même s'il conduit à la mort. Et c'est le mystère pascal. Troisièmement, nous dit le Saint-Père, offrir par amour. Enfin, le plus beau geste à faire, celui de l'oblation, l'offrande. Effectuée par amour du Seigneur et de nos frères, permet d'atteindre, à un degré parfois très élevé, la charité théologale. C'est-à-dire de se perdre dans l'amour du Christ et de la très sainte Trinité pour l'humanité. Ces trois étapes vécues par chacun des souffrants selon son rythme et sa grâce lui apportent une libération intérieure étonnante. N'est-ce pas l'enseignement paradoxal rapporté par les évangélistes ? Celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Pour méditer ces paroles, mais je relève quelques petits points que nous dit le Saint-Père, ces trois étapes vécues chacun par des souffrances selon son rythme et sa grâce. Dieu va nous donner la grâce qui est bonne dans l'instant où nous sommes. Nous n'avons pas à nous inquiéter de l'instant suivant, comme dirait Thérèse de Lisieux, qui a beaucoup souffert et qui a une vie courte. Elle dira, à chaque instant, elle a un poème, je ne sais plus le titre, c'est « À chaque instant ». Elle dit, voilà, « Vive l'instant présent », elle a un poème là-dessus. Et elle vit chaque jour, en fait. La grâce nous est donnée chaque jour. Et Jésus dira en Matthieu 6, à la fin de Matthieu 6, ne vous préoccupez pas de demain. Chaque jour suffit sa peine. La grâce nous est donnée pour l'instant. Nous ne pouvons vivre ce que nous vivons que par la grâce de Dieu. Et nous devons croire que la grâce nous est donnée. Nous devons la demander. Et la grâce nous est donnée à proportion de ce que nous avons à vivre. Et Dieu a une pédagogie pour nous. C'est-à-dire, le Saint-Père dit, selon son rythme et sa grâce, selon son rythme, nous n'avançons pas dans le cheminement de l'acceptation de la souffrance de la même manière chacun. C'est pas grave, Dieu le sait, il est pédagogue. Il faut accepter d'avancer moins vite ou plus rapide sans se juger. Et donc, du coup, quand nous accompagnons quelqu'un qui est souvent en grande souffrance, la première chose, c'est pas de lui dire, « Oh, tu sais, ça va être un chemin de bénédiction pour toi. » Parce que la personne, alors là, elle le reçoit mal. C'est plutôt d'abord un silence de compassion. Un silence. C'est plutôt des... Et le Saint-Père, dans sa lettre, Jean-Paul II, dans sa lettre, la souffrance salvifique, Salvifici Doloris, une très belle lettre, dit justement que c'est d'abord le silence, une attitude de silence qu'il nous faut avoir, une attitude de proximité et de prière pour la personne. Et puis en son temps, une parole peut être donnée, une parole même des fois qui peut être découverte intérieurement par cette personne, voyez. Mais l'important à un moment donné est de faire prendre conscience après la capacité à offrir ce que nous vivons. Voilà un peu pour le mystère de la souffrance. Et je rappelle que l'offrande, l'offertoire, c'est ce moment-là. J'offre ce que je vis à Dieu en vue de la gloire de Dieu, de ma sainteté, l'acceptation. Père, non pas ma volonté mais la tienne, c'est ce qu'on dit. Notre Père, que ta volonté soit faite. Donc on va jusqu'au bout, c'est pas évident. Et en même temps, c'est du fruit pour les autres. Et là, nous comprenons à ce moment-là ce que dit Saint Paul quand il dit « Je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ. » Il manquait rien à la passion du Christ. Mais saint Paul nous fait comprendre, parce que Dieu nous a sauvés par lui-même, mais que quelque part nous participons dans notre corps, dans notre âme, dans notre volonté, à la participation à Jésus, mort et ressuscité. Et donc en nous, il y a quelque chose de Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et il y a une participation à ça. C'est normal. Nous devons aussi lutter, là c'est la partie souffrance, qui des fois est une conséquence de notre péché. Vous voyez la dimension médicinale, la dimension médicinale de la pénitence, conséquence de notre péché, c'est que Dieu, la pénitence nous permet d'avoir un remords, de regretter, une saine culpabilité qui ne doit pas être du scrupule ou une atrophie, mais une invitation à la conversion. Donc c'est bien. Vous voyez, Dieu est bon. Les saints disent ça, ça paraît complètement paradoxal. Mais en réalité, que nous puissions faire pénitence ou faire cheminer vers la conversion, c'est une grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que nous participions à notre salut. Saint Augustin disait, Dieu t'a créé sans toi, il ne te sauvera pas sans toi. Dieu veut qu'on participe. Ça veut dire qu'il nous dit, on a ça en médecine aujourd'hui contemporaine, on dit qu'une partie du soin du malade, de la guérison du malade, elle est faite par le malade. Le malade y participe. Et bien Dieu veut ça pour nous, c'est-à-dire il nous donne un moyen de participer à notre guérison en quelque part nous convertissant. Et le début de la conversion, c'est le remords, c'est la reconnaissance de sa culpabilité, c'est le désir de changer. Voilà. Et puis si nous nous convertissions, ben voilà, nous deviendrons des saints. Mais je voudrais m'arrêter sur les conséquences du péché, j'en ai pas assez parlé. On a dit ça conduit à la mort, ça sépare de Dieu, ça détruit les relations entre les autres, ça, vous voyez, ça désharmonise l'unité intérieure de l'homme tel qu'il est fait. Mais il faut avoir conscience, l'Église, comme on va parler, je parle un peu du péché, l'Église, bon, c'est des catégories, parle d'une distinction péché véniel, péché mortel. Comment on peut être pardonné du péché et quelles sont les conséquences du péché dans notre vie? Alors, pour faire très simple, le péché, si vous voulez, c'est un acte que je pose sur moi, vers les autres ou vers Dieu, et qui a une conséquence obligatoirement sur moi, sur les autres ou vers Dieu. Même un péché personnel a une conséquence sociale, parce que nous sommes des êtres communautaires dans le mystère de l'Église. Même un péché personnel a une conséquence sur moi, sur les autres et sur Dieu. Il blesse mon rapport à Dieu toujours. En cela, il est un péché. Un petit péché, c'est comme, j'aime bien cet exemple, c'est comme vous imaginez, cette Église, c'est notre âme, c'est notre être intérieur. Un péché va toujours salir les parois de la vitre, du vitrail. Et donc, quelque part, au bout d'un moment, il obscurcit la lumière de Dieu à rentrer. D'accord ? Cette lumière de Dieu qui ne rentre pas nous affadit dans la capacité à l'aimer, à le connaître et nous désoriente petit à petit. C'est pour ça qu'il faut résister au péché, demander la grâce, parce que qui est complice du péché se fait vicieux, est enclin et petit à petit perd l'amour de Dieu. Il est tiède, il s'affadit. Prie de moins en moins, tu prieras plus du tout. Concède telle ou telle chose, tu finiras à te lâcher totalement. Voyez, c'est le péché véniel. Et il y a des conséquences de péché en péché qui peuvent être très dures, ce qu'on appelle le péché mortel. Alors là, c'est même plus le petit vitrail qui est obscurci, c'est carrément, il est recouvert de boue. Et là, la grâce passe plus du tout. Et là, effectivement, il nous faut absolument nous confesser, parce que nous sommes en état de mort spirituelle. Voilà, péché mortel, c'est ce que dira Isaïe. Nous sommes debout et pourtant nous trébuchons. Nous sommes en plein jour et pourtant nous sommes des aveugles. Nous avons la bonne santé et pourtant nous sommes comme des morts. Voilà, il a conscience de ça. Et c'est Jésus a conscience de ça et il est sans concession. Il dira, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais craignez ce qui peut tuer le corps et l'âme. Parce qu'effectivement, nous devons lutter contre le péché. Et les papes du XXe siècle ont dit, le grand péché de cette société, de notre époque, c'est d'avoir oublié le péché. Voilà, il faut avoir conscience de cette réalité. Mais il ne faut pas non plus tourner vers ça simplement, parce que Dieu est bon, Dieu a tant aimé le monde, qu'il est venu non pas pour juger, mais pour sauver, nous délivrer de cette dimension-là. Voilà. Et donc, comment se confesser ou comment vaincre le péché? En demandant la grâce, en faisant des efforts concrets sur des petits actes, renouvelés sans cesse. Le saint, ce n'est pas celui qui tombe, c'est celui qui persiste et qui se relève toujours. Ça demande une vraie collaboration. Faut engager toutes ses forces, ne pas désespérer. On emploie sa vertu d'espérance et on travaille. Et en même temps, on demande la grâce, parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. On a besoin de la grâce, rappelons-nous, le moule est abîmé, nous sommes pécheurs. Et donc, on a besoin jusqu'au bout de la grâce. Comment ? Où demander pardon à Dieu ? À chaque Eucharistie, au moment du Kyrie, le prêtre dit « Je confesse à Dieu, nous pouvons faire un examen de conscience et demander pardon à Dieu. » Et l'Église reconnaît que pour tout acte de péché véniel, à ce moment-là, la grâce du pardon est donnée. Mais pour tout acte plus fort, le pardon nous est donné sacramentellement, qui nous lave notre âme, qui la rend intacte comme au baptême, comme au premier jour pour nous, de notre naissance divine. Et c'est fait dans le pardon de Dieu, dans la confession. On peut aussi se confesser de ses péchés véniels, et c'est bon, dans le sacrement de confession. Pourquoi ? Parce que c'est plus fructueux. C'est beaucoup plus fructueux, parce que ça nous permet d'humaniser notre rapport à Dieu, d'avoir des lumières qui nous sont données sur des points concrets par la médiation du prêtre. Et c'est un cheminement d'humilité et de confiance, puisque c'est un acte où je me dévoile à un ministre de l'Église. Je rappelle que le ministre de l'Église a interdiction de révéler les péchés, sinon il est excommunié. Ah oui, donc oui, absolument, c'est la... Oui, excommunié directement, tout de suite. Donc, voilà, c'est clos parce que Dieu efface le péché, Dieu oublie. Et comme il oublie, il change, voilà. Voilà des sources du mal. Une partie, c'est mystérieux, une partie est la dimension maléfique, une partie, la grosse partie, c'est la liberté de l'homme qui, comme il est pécheur, l'a mal exercée, et une autre partie, ben, Dieu le permet en vue d'un plus grand bien. Je rappelle aussi que le Christ ressuscité, à la fin des temps, arrêtera définitivement l'action maléfique. Il mettra fin au terme de l'action qui se propage de Satan. Donc, à la fin des temps, les hommes ne seront pas tentés. Voilà. Voilà, j'arrête pour cet enseignement. Que le Seigneur nous donne la grâce de le creuser. Amen.